Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il est temps d'agir. Ce sont les mots très forts du militant anti-drogue Amine Kessassi qui refuse de se taire et prend la parole dans une tribune ce matin après la mort de son frère tué par balle la semaine dernière à Marseille. Le budget de la sécurité sociale, on en reparle ce matin, il arrive au Sénat où il sera certainement détricoté. Et la taxe foncière aussi, elle va augmenter l'an prochain pour quasiment 7,5 millions de logements.
Ce sont des mots très forts qu'écrit ce matin le militant anti-drogue Amine Kessassi.
Dont le frère de 20 ans a été tué par balle jeudi dernier à Marseille dans ce que le gouvernement qualifie de crime d'avertissement et de point de bascule. Il écrit donc cette tribune au journal Le Monde au lendemain des obsèques de son frère auquel il a assisté, protégé par un gilet pare-balles. Romain Houck, vous l'avez lu cette tribune pour RMC. Amine Kessassi dit que son frère est mort pour rien et qu'il refuse de se taire.
Oui, Amine Kessassi se dit déterminé à poursuivre son combat contre, écrit-il, la violence du narcotrafic, son emprise et la lâcheté des commanditaires des crimes. Nous comptons nos morts, mais que fait l'État, s'interroge-t-il dans cette tribune empreinte de révolte et d'une grande émotion. J'entends les belles paroles, les discours soudains volontaires, dit Amine Kessassi. Assis avant de pointer du doigt les carences de l'État, les failles de la République, les territoires abandonnés. Face à un tel ennemi, l'État doit comprendre qu'une lutte à mort est engagée. Il est temps d'agir, assène-t-il, de faire revenir les services publics dans les quartiers, de lutter contre l'échec scolaire qui fournit aux trafiquants une main-d'œuvre soumise, de doter la police des moyens dont elle a besoin, de soutenir réellement les familles des victimes. Avant de conclure, que notre révolte face au narcotrafic soit durable et collective. Courage, on ne peut pas tuer tout un peuple.
Alors à ça, Emmanuel Macron répète qu'il veut lutter contre les narcotrafiquants partout en France avec la même approche que l'antiterrorisme. Il accuse les acheteurs d'être des complices. Toujours est-il que pendant ce temps, à Marseille, eh bien des militants antidrogue disent ouvertement qu'ils lâchent l'affaire et qu'ils arrêtent le combat face à la violence des narcotrafiquants. Anna Jojard, vous avez rencontré l'un d'entre eux pour RMC. La crainte est telle qu'il a demandé à ce qu'on modifie sa voix.
Oui, ce personnage très connu du monde associatif local est l'un des rares qui accepte d'être enregistré, mais il requiert l'anonymat. Il raconte aujourd'hui la peur qui a pris le dessus pour une partie de ses militants qui ne souhaitent pour l'instant plus afficher publiquement leur combat contre le narcotrafic.
Pour l'instant, on s'est mis en pause, on réfléchit, mais certains déjà ont jeté l'éponge.
Une personnalité publique engagée de longue date contre le narcotrafic m'explique en effet avoir arrêté d'aborder ces sujets. Pour elle, si l'État a échoué à protéger la famille d'Amine Kessassi, tout le monde est en danger. Un sentiment partagé par le militant.
Là, on a perdu espoir. On se dit qu'arriver à ce stade-là, c'est peine perdue et que le combat est perdu d'avance. Donc ça ne sert à rien de se mettre en danger, de s'exposer ou bien de se fatiguer pour une cause vouée à l'échec. Pour l'heure, les narcotrafiquants ont gagné.
Une autre militante se montre en revanche plus réservée sur ce constat. Pour elle, le temps est au deuil, mais le combat doit continuer. Et elle le dit avec conviction, si je ne parle pas, qui le fera ?
Il cherche à nous faire taire, dit ce matin le maire de Marseille, Benoît Payan. Alors la lutte contre le trafic de drogue s'invite dans les débats des municipales. Dans 4 mois maintenant, on est en plein congrès des maires à Paris. Toutes les villes sont touchées. La preuve à Nancy, 10 suspects viennent d'être interpellés dans le démantèlement d'un point de deal qui rapportait jusqu'à 8000 euros par jour. L'autre thématique du moment, c'est le budget, plus précisément le budget de la sécurité sociale. Vous savez que le texte était jusque-là dans les mains des députés. Ils ont fait passer le déficit de 17 à 24 milliards d'euros par rapport à la version originale du gouvernement, avec par exemple la suspension de la réforme des retraites. Le texte arrive aujourd'hui dans les mains des sénateurs, sénateurs de droite, qui entendent bien le détricoter, hein, Thomas Becker.
Les sénateurs assument de jouer le contrepoids d'une Assemblée nationale qu'ils jugent trop dépensière. Le rapporteur du budget de la Sécurité sociale, Olivier Henno.
Si on reprenait déjà les amendements qui ont été votés à l'Assemblée nationale, on était à 24 milliards de déficit. Voyez l'ampleur de l'irresponsabilité.
La majorité de droite et du centre compte bien rétablir l'année blanche qui prévoit le gel des pensions de retraite, mais en épargnant celle inférieure à 1400 euros. Par contre, comme l'affirme la sénatrice LR Agnès Evraine, hors de question d'accepter la suspension de la réforme des retraites accordée par le gouvernement au PS.
Quand on a crié urbi et orbi que cette réforme des retraites était indispensable pour un simple accord électoral cynique, on accepte de tout abandonner.
Des débats à l'opposé des compromis scellés entre le gouvernement et les socialistes à l'Assemblée, ce que regrette Guillaume Gontard, sénateur écologiste.
Il s'éloigne, encore une fois, de l'essence de ce qu'est la sécurité sociale. On va à la fois batailler, mais on va aussi montrer cette dérive dans laquelle on est.
Une chose toutefois fait consensus au Sénat, la nécessité à la fin des débats de voter un budget pour l'année prochaine.
Alors ça, c'est la mauvaise du jour pour les propriétaires. La taxe foncière va augmenter de 63 euros en moyenne l'année prochaine pour quasiment 7,5 millions de logements. En fait, les calculs de certains critères datant des années 60 ont été revus. Ce qui met en colère ce matin sur RMC, Sylvain Grataloup, écoutez-le, c'est le président de l'Union des propriétaires immobiliers.
Pour calculer la taxe foncière, l'administration fiscale utilise plusieurs critères. Il y a la superficie du bien, bien sûr, et les 6 éléments de confort qui sont pris en compte. L'eau, l'accès à l'électricité, baignoire, douche, WC, lavabo ou chauffage ou climatisation. Mmh. Et à chaque équipement, il y a une surface fictive. Mmh. Et en fonction de ces éléments, on rajoute la superficie et on calcule la taxe foncière. Donc ça veut dire que l'administration fiscale a choisi de présumer de façon totalement arbitraire que tous les biens disposaient de l'intégralité du confort moderne. C'est pas justifié. Et ça se rajoute à toutes les charges que doivent subir les propriétaires depuis des années et des années.
Ce sont les deux départements corses qui sont les plus touchés, l'Isère la moins concernée. C'est de saison avec la première percée du froid cette semaine. Le secrétariat du Père Noël ouvre aujourd'hui à Libourne, en Gironde, pour les enfants qui veulent encore lui envoyer leur liste de cadeaux, hein, Célestin Bougère.
Cher Père Noël, cette année, les deux jumelles de 7 ans, Lénie Rose et Abel Ange, voudraient en cadeau...
Un ordinateur Stitch, des pistolets... Ben moi, je veux une tablette, des Lego.
Les jumelles jouent au milieu d'un parc avec leur grande sœur de 10 ans, Kelsey. Elle sait déjà ce qu'elle va écrire dans sa lettre au Père Noël.
Je vais juste demander un ordinateur.
Comment tu convaincs le Père Noël dans ta lettre de te donner les cadeaux?
Parce que déjà, je demande que ça, et de deux, j'ai des très bonnes notes et que je suis sage.
Et si ces arguments ne suffisent pas, Lénie Rose a une solution. Un peu plus radicale, la menace.
Père Noël, si tu ne me ramènes pas les cadeaux que je veux, je vais te voler ton travail.
Tu vas devenir Père Noël, toi?
Ouais, d'accord. Ce serait hyper cool.
Octave, 5 ans, lui a déjà écrit sa lettre.
Moi, je commandais un Lego Ninja, un Lego Tigre. Je lui ai dit que si je pouvais avoir ça, s'il te plaît. Et après, à la fin, je lui ai dit merci, Père Noël.
Pas besoin de timbre, il suffit simplement d'inscrire Père Noël comme destinataire sur l'enveloppe et de la déposer dans les boîtes aux lettres spéciales installées dans 2300 bureaux de poste partout en France.
Et cette année, ils auront en réponse un petit mot de l'explorateur Nicolas Vanier pour les sensibiliser au dérèglement climatique. La liste est presque complète. Ce matin, on connaît 42 des 48 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde de foot de l'an prochain en Amérique. Alors la surprise de la nuit, c'est la qualification de l'île de Curaçao. Vous entendez l'ambiance dans le vestiaire de l'équipe de foot, hein, de cette petite île néerlandaise de seulement 160 000 habitants dans les Antilles, qui devient l'état le moins peuplé à participer à une Coupe du Monde. C'est comme si Angers et Dijon se qualifiaient pour la Coupe du Monde.
C'était Quentin Millet. Vous avez vraiment dit que les enfants qui écrivent au Père Noël vont être sensibilisés en retour au dérèglement climatique?
Oui, par un petit mot de Nicolas Vanier.
Ils écrivent au Père Noël et après on leur dit faut que tu fasses gaffe, on va te culpabiliser un peu.
Mais il va savoir faire, il est écrivain, Nicolas Vanier.
Voilà,
il va mettre l'effort.
Il va aussi leur écrire une lettre, effectivement, d'affection sur la planète, j'espère, oui, en tout cas. C'était le journal de Quentin Millet.